enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Eh bien, ce matin, mon thème sera en rapport avec ce qui va se passer cet après-midi. Le baptême d'eau. Je voudrais lire avec vous dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, Marc 16, 16, Jean 3, 5 et Acte 2, verset 38. Si vous nous suivez sur le net, prenez votre Bible et lisez les textes avec nous. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien n'hésitez pas à vous en acheter une. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Jean, chapitre 3, verset 5, Nicodème vient voir Jésus. Et voilà ce qu'il lui dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et pour terminer, après une prédication ointe par le Saint-Esprit, où une multitude fut profondément touchée, Pierre leur dira, après qu'ils lui eurent posé la question, « Que nous faut-il faire, frère ?» Il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » En introduction, j'aimerais nous rappeler que Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne dit pas « Je suis un chemin parmi d'autres ». Jésus ne se propose pas comme étant une vérité qui pourrait, eh bien, finalement, satisfaire l'accès vers Dieu aux uns et aux autres en sachant que d'autres vérités pourraient les y mener. Non, il dit « Je suis la vérité ». Nous sommes aujourd'hui dans une société qui a du mal à accepter ce genre de message. Dès que vous commencez à dire « Je suis le chemin, la vérité », vous devenez exclusif. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Alors que nous sommes dans une société qui se veut tolérante. Lorsque vous dites que Jésus est le seul chemin, vous êtes regardé de travers, on vous traite d'intégriste et de fondamentaliste. Pourtant, Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il nous communique non seulement la vie présente, mais la vie éternelle. Voyez ce qu'il dit à Marthe, sœur de Lazare. « Je suis la résurrection et la vie. » Personne n'a jamais pu dire ça en dehors de lui. Personne. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il est la vie. Tu as la vie. Je sais que mon frère Marcel est maintenant dans la vie éternelle. Mais la vie éternelle, nous a-t-il dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et le vrai Dieu. Ce qui signifie qu'il y a d'autres dieux, de faux dieux. Jésus est clair. Personne. Personne ici dans ce lieu, aucun d'entre nous. Quelle que soit votre culture, vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre sexe, homme ou femme, aucun d'entre nous ne peut venir au Père si ce n'est par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus se présente également comme la porte des brebis. Jean 10, il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Pour beaucoup, vous le savez, pour ceux qui ne le sauraient pas ici ou sur le net, la porte du ciel, eh bien, il n'y en a qu'une, et son nom, c'est Jésus. Il n'y a pas une petite porte à l'arrière, j'ai entendu ce genre d'histoire. Il y a une petite porte à l'arrière à laquelle se trouve Saint-Pierre. Bon, écoutez, la Bible ne me le dit pas et je ne peux pas annoncer autre chose que ce que la Bible dit. Par contre, ce que la Bible me dit, c'est qu'il y a une porte. Cette porte-là, c'est Jésus. Celui qui entre par lui sera sauvé. C'est son sang précieux qui nous rachète de notre vaine manière de vivre. Il dira toujours, encore en tant que berger, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance et chez les Juifs, aujourd'hui encore, et dans la parole de Dieu, il nous est dit que la vie est dans le sang. D'où nous ne mangeons pas de sang, entre autres. Mais la vie est dans le sang. Lorsque Jésus donne, répand son sang, il donne sa vie et il le précise. Personne ne me la prend. Je la donne. Ce matin, nous sommes tous au bénéfice de ce sang qui a été versé et de l'œuvre qui a été faite. Jean le Baptiste, en le voyant, dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qui couvre le péché du monde. Ce qui voudrait dire que par ailleurs, le péché serait encore là. Non, non, il a dit qui ôte, qui enlève le péché du monde. Pouvez-vous dire oui à tout cela? Pouvez-vous dire un amen que les internautes entendent? Bien. Si nous reconnaissons ce que nous venons de dire, si dans ce lieu, chaque personne présente reconnaît que ce que je viens de dire est foncièrement et profondément biblique, que c'est la vérité, si quelqu'un parmi nous reconnaît que Jésus est le chemin, qu'il est la vérité et la vie, qu'il est le sauveur dont il a besoin, alors j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas affirmer, croire ce que j'ai dit sans faire ce que lui a fait. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas dire oui et amen à cette introduction sans ensuite nous engager. Pierre nous dit... Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, laissant un exemple à suivre afin que vous suiviez ses traces. Il a laissé un exemple à suivre à toutes les générations. Et ce matin encore, c'est avec joie que je prêche l'évangile en disant Jésus est mon modèle et mon maître. Il est l'exemple à suivre. Maintenant, premier point. Jésus est notre modèle parfait. La question, qu'a-t-il fait? Qu'a fait le modèle? Qu'a fait le modèle à suivre? Nous lisons dans Matthieu 3, au verset 13. Alors Jean vint de la Galilée au Jourdain. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Moi j'aimerais pendant un instant que vous vous imaginiez la scène. La foule est là, à l'endroit où Jean le Baptiste prêche. Jésus vient, s'identifie à cette foule, se met dans la ligne qui attend le baptême. Et pendant qu'il est dans la ligne, il est harangué par Jean le Baptiste, qui harangue la foule. Que leur disait-il? Allez Claude, tu vas être Jésus. Viens chez moi Claude, tu vas être Jésus ce matin. Oui. Alors pour une fois que je te donne un beau rôle quand même... Imaginez que mon frère Claude soit Jésus. Il est dans la file qui attend. Et voilà ce que Jean disait à la foule qui venait. Regardez, ça donne à peu près ça. Je vais le lire dans mes versets. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères !» Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, race de vipères. Hey, Jésus l'innocent. Oubliez Claude, hein. Jésus l'innocent est là dans la foule et il se fait haranguer comme les autres. Lui, le Fils de Dieu. Lui, celui qui est sans faute, s'entend dire « race de vipère ». Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Il entend le message, le Fils de Dieu entend le message, se fait traiter comme la foule. Et voilà qu'il s'approche. Et tout d'un coup, Jean-Baptiste le voit. Waouh ! Et lorsque Jean-Baptiste le voit, il est surpris. Parce que lui, Jésus, n'est pas de ceux qui sont en train de fuir la colère à venir. Au contraire, lui est en train de marcher vers la colère de Dieu qui va s'abattre sur lui, pour vous et pour moi. Lui n'était pas en train de fuir la colère à venir, lui était en marche vers la colère à venir. Ésaïe dira qu'il s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Non, Jésus ne fuyait pas la colère. Il était en train de marcher vers la colère de Dieu pour vous et pour moi. Mais en même temps, il s'identifiait à chacun d'entre nous au stade où il ira jusqu'à s'humilier en acceptant d'entrer pour plaire à Dieu dans les eaux du baptême, afin de nous montrer le chemin. Mon frère, ma sœur, Jean-Baptiste, quand il le voit, il comprend pas. Il comprend pas, d'ailleurs, le texte nous le dit, mais tu viens à moi, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Non, tu peux pas me baptiser. C'est pas possible. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Dans aucun écrit rabbinique, vous ne trouvez que le Messie devait être baptisé. Aucun. Dans la tête de Jean, qui savait qui était Jésus, c'était son cousin, premièrement. Mais il savait très bien qui il était. Il savait de quelle manière Marie était tombée enceinte. Peut-être avait-il un lointain souvenir de ce qui s'est passé quand Marie vient vers Élisabeth et que l'enfant a tressaillé dans son sein. Oui, Jean le Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère lorsqu'il a entendu que Marie était enceinte. Et maintenant, il est là face à ce Jésus. Et il voit Jésus, celui qu'il sait être le Messie, celui de qui il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il le voit venir pour être baptisé du baptême de la repentance. De la repentance. C'est-à-dire, la repentance c'est quoi ? C'est l'engagement, un changement de comportement, d'attitude et de vie. Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre ça. Comment Jésus, tu viens toi pour te repentir de quoi ? Pour changer de quelle vie ? Non, c'est moi je suis pécheur, moi je suis né d'homme, moi j'ai besoin d'être baptisé par toi. Jean-Baptiste ne pouvait pas plus comprendre le baptême de Jésus que Pierre ne pouvait comprendre sa crucifixion. Pour Pierre, Jésus était le Messie. Mais quand Jésus commence à parler de sa mort et de sa crucifixion, Pierre comprend pas. Il dit, mais non, le Messie c'est celui qui vient nous sauver, qui vient nous arracher de notre situation. Le Messie c'est un héros, mais pas un héros souffrant qui termine sur une croix entre deux brigands. Mais non, c'est pas ça. Et il dit à Jésus, mais Jésus, ça ne t'arrivera pas. Et le Seigneur le regarde et lui dit, arrière de moi Satan. Et il dit à Jean le Baptiste, écoute bien Jean, accepte, en français courant il dit, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Accepte que ce soit comme cela pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Mon frère, ma sœur, le modèle parfait va se soumettre à ce que Dieu demande en tant qu'homme. Est-ce que cela ne vous a jamais interpellé ? On a circoncis Jésus. Pourquoi avait-il besoin d'être circoncis ? Lui, le Fils de Dieu. Pourquoi avait-il besoin de la marque de l'alliance dans sa chair? N'avait-il pas une plus grande alliance en étant Dieu lui-même? On le présentera au temple. La présentation était aussi en relation avec le rachat de l'Égypte. Lui, avait-il besoin de ça, non? Non, mais il va le faire. Par le biais de ses parents, il va être identifié à son peuple. En tant qu'homme, il va être soumis à tout ce que Dieu demandait, et cela jusqu'au bout. Ce matin, il me semble difficile d'imaginer un autre chemin si nous confessons ce que nous avons vu en introduction que celui que le maître nous indique. Voyez-vous, son baptême dans un sens est une identification avec ceux qui étaient là, comme un gage, une garantie qu'ils prendraient leur place au moment du jugement. Il est mort pour chacun d'entre nous à notre place. Mais il s'est pleinement identifié à nous en rentrant dans les eaux du baptême. Ça a tellement frappé Jean le Baptiste qu'il voulait refuser de le faire. Cependant, il faut que nous accomplissions. Et puis, Dieu va approuver divinement. Dieu va approuver divinement. Qu'est-ce que vous voudriez de preuve plus grande que celle-là? Écoutez ce qu'il a dit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que c'est pas glorieux? Dieu lui-même met son sceau en parlant du ciel. L'Esprit descend et le Fils se soumet. C'est l'un des grands moments dans l'Écriture où vous avez la Trinité réunie. Le Fils dans l'eau, l'Esprit sur lui et le Père qui parle. Il nous laisse un modèle à suivre. Il nous laisse un modèle à suivre. Deuxième point, comment Jésus fut-il baptisé? C'est quand même important. Peut-on se faire baptiser n'importe comment, n'importe quand? Comment fut-il baptisé? Matthieu 13 nous dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Et écoutez, dans Jean 3, 23, il est dit, « Jean le baptise donc, aussi baptisé à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. » C'est une indication importante. Il était là parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Le terme baptême en grec signifie immersion. Vous êtes immergé, plongé dans l'eau. Jésus fut plongé dans l'eau. D'ailleurs, les apôtres et les disciples continuèrent à baptiser de cette manière-là. Dans Acte 8, l'eunuque éthiopien, il nous est dit comme ils continuaient leur chemin. Ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui répond, et un peu plus loin, il est dit, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Mon frère, ma sœur, tous les témoignages des historiens, les données linguistiques et archéologiques nous montrent que dans les premiers siècles de l'Église, on a uniquement baptisé par immersion et non pas par aspersion. L'aspersion arrive au 14e siècle. Et c'est à partir de là qu'on commence également à voir sur les images pieuses des peintres qui peignent par exemple Jésus dans l'eau et Jean le Baptiste avec une coquille Saint-Jacques. C'est à ça que ça ressemble, hein, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein, qui le baptise. Et c'est à peine à partir du concile de Ravenne qu'on va accorder la même valeur au baptême par immersion qu'au baptême par aspersion. Mais Jésus n'a pas été baptisé par aspersion. Jésus a été baptisé par immersion. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, oui mais c'est parce qu'on manque d'eau. Et vous trouvez qu'on manque d'eau en ce moment? Il y en a qui sont baptisés même sans le vouloir en ce moment. Hein. C'est dramatique pour certains. Nous ne manquons pas d'eau, nous pouvons le faire. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé, qui n'a pas été baptisé encore et qui voudrait voir comment ça a lieu, cet après-midi à 15h, ici, nous baptiserons. Et nous baptiserons selon ce que dit Jésus. C'est vrai, c'est pas le Jourdain. Mais c'est de l'eau. Immergé, plongé. Les quelques gouttes d'eau, un nettoyage à sec, peut-être. Mais bibliquement, vous ne le trouvez pas. Je crois que ce qui est important, c'est que nous revenions à ce que la parole dit. Voyez-vous, il y a quelque chose... Tout à l'heure, Jean-Marie me faisait une petite réflexion. Que ce soit l'aspersion ou le baptême des nourrissons, nous le verrons également. Si vous lisez, si vous donnez à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, un évangile ou les évangiles, et vous lui demandez de les lire, alors qu'il n'a aucune notion de ce que nous sommes en train de partager, personne ne peut arriver à la conclusion de l'aspersion ou du baptême des enfants. Personne. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un élément extérieur. Mais en lisant simplement les évangiles, vous n'arrivez pas à ces conclusions-là. Si vous lisez simplement les textes qui sont clairs, et si vous suivez l'exemple du Christ, vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas arriver à ces conclusions-là. Jésus fut donc baptisé par immersion, il fut baptisé dans les eaux du Jourdain, et il était conscient de ce qu'il faisait. Troisième point, quelle est la condition pour être baptisé? Quelle est la condition pour être baptisé? Avoir 1m80, 60 kilos, je ne sais pas. Quelle est la condition? Croire. Croire, voilà la condition sine qua non. Le baptême suit la foi dont il est l'expression. Le baptême, c'est pas la foi, c'est l'expression de notre foi. Il suit la foi. Seule la foi sauve, on est d'accord. Si un athée se faisait baptiser, bon, il aurait pris un bon bain, mais il serait autant perdu qu'avant. C'est la foi qui sauve. Et la foi précède le baptême. Cependant, le baptême est l'expression publique de notre foi qui s'engage avec Dieu. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de descendre pour être sauvé. Jésus pourtant lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, faites une différence entre le brigand qui ne pouvait pas faire autrement et tous ceux et celles qui pourraient faire autrement, qui ne le font pas. Parce que voyez-vous, dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est toujours lié. La parole est liée à l'action. Si tu crois, tu agis. Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est clair. Mais maintenant, on continue. Croire, qu'est-ce que ça implique? Tiens, une définition. Tenir pour vrai. Estimer comme véritable, être persuadé de la réalité, de la vérité, de l'existence de quelqu'un. Croire et agir, ou foi et action vont donc de pair. Vous ne pouvez les séparer. Si je tiens quelque chose pour vrai ce matin, si je l'estime et j'en suis persuadé, cela implique que je vais l'appliquer et l'appliquer à ma propre vie. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cela se traduira par des actes. Le nuque, au moins, il est logique. Le nuque, il se met, Philippe lui prêche, le nuque croit, il voit de l'eau, il dit, ben, il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, et c'est ça la condition, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il n'a pas dit, si tu fréquentes depuis 10 ans l'assemblée, il n'a pas dit, si tu suis les cours de formation sur 2 ans, hello. Il n'a pas dit si tu es irréprochable. Il n'a pas dit on va d'abord te faire passer une batterie de tests. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque rencontre Philippe sur le chemin qui est désert. Il entend l'évangile, il est touché, il est baptisé le même jour. Hello. Cependant, il y a une condition, si tu crois de tout ton cœur, et cette condition va impliquer un changement de vie. Car lorsque nous croyons ce que dit la parole, la foi engendre quelque chose de profond. Vous savez ce que c'est? La repentance. La foi engendre la repentance. Et c'est pourquoi Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que votre mode de vie est mauvais. Il s'oppose à Dieu. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Passez de la lumière, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et vous recevrez par la foi en lui le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et ensuite, faites-vous baptiser. Hello. Y'a papa Jean? Mon frère, ma sœur. J'entends parfois des gens me dire quelque chose d'intéressant. Ils me disent, pasteur, ce que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous savons que la foi précède le baptême, nous sommes d'accord. Mais certains me disent, moi, pasteur, je suis croyant, mais non pratiquant. Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Peut-être vous, chers internautes, vous ne l'avez jamais entendu. Mais en France, c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement. Je suis croyant, non pratiquant. J'ai réfléchi sur cette phrase. Ces jours-là, j'ai réfléchi. Ça m'arrive, comme ça, m'asseoir. Puis, je vais traduire cette phrase. On va mettre le décodeur en route. En d'autres mots, je crois que ce que l'on me dit est vrai, mais je ne le fais pas. Il faudrait alors dire non pas « je suis croyant non pratiquant », mais « je suis croyant désobéissant ». Aïe, 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 aïe. Ça gêne plus, hein ? Ne dites plus « je suis croyant non pratiquant », dites simplement « je suis croyant désobéissant ». Je crois que c'est vrai. J'ai décidé de pas le faire. Ah, et alors là, ça devient sérieux. Puisque Jésus dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême ne sauve pas. Quelqu'un qui ne croit pas, qui se ferait baptiser, il est autant perdu qu'avant, même si on l'infusait pendant 8 jours. Ça change rien. Ça change rien. Ceci dit, celui qui affirme « je crois de tout mon cœur » mais qui refuse d'obéir est dans la désobéissance. Et j'aimerais vous dire que la désobéissance est aussi coupable que la divination, dit l'Écriture. À partir du moment où je sais, je ne vous parle pas des gens qui ne savent pas. Je ne vous parle pas du brigand sur la croix qui ne pouvait pas descendre, mais de celui qui sait et qui délibérément dit « non » pour X raisons. Il est dans la désobéissance et à ce moment-là, elle est plus coupable que la divination. Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. En d'autres termes, celui qui ne croit pas, il se laisse pas baptiser, ça paraît logique. Mais celui qui dit qu'il croit et qui n'agit pas se met en danger. C'est grave et sérieux, frères et sœurs. C'est pas à prendre comme ça par-dessus l'épaule. C'est vraiment profond. C'est important. Si le Fils de Dieu lui-même descend dans les eaux du baptême, à combien plus forte raison, nous, ses disciples, appelés à le suivre. Ce matin, où en êtes-vous? Où en sommes-nous? Quatrième point, que représente le baptême? Est-ce que nous pratiquons encore le baptême de la repentance, comme Jean le Baptiste? C'est une question qu'on peut se poser, puisque Jésus fut baptisé du baptême de la repentance. Non, nous nous repentons avant. Nous passons par la repentance avant de nous engager. Lorsque Paul se trouve avec les Éphésiens, il leur pose la question suivante. Et on verra qu'après la mort et la résurrection de Jésus, le baptême de Jean ne sera plus considéré comme le baptême d'engagement avec Christ. Écoutez ce qu'il est dit. Dans Actes 19, Paul était donc là à Éphèse, il parle avec les Éphésiens et il leur dit de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus, sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Paul les a donc rebaptisés. et il les a baptisés maintenant au nom de Jésus. Jésus, lui, nous invite à baptiser comment? Il dira, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comment encore sommes-nous baptisés? Eh bien, écoutez ce qu'il nous a dit. Nous sommes baptisés, selon Romains, dans la mort et la résurrection en Jésus-Christ. Dans la mort et la résurrection en Jésus-Christ. Paul nous rappelle que le baptême exprime la mort à une manière de vivre et la résurrection à une nouvelle manière de vivre. On met un homme dans la baignoire et un autre en sort. Enfin, ça devrait être comme ça. C'est un engagement. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est pas un bouton qu'on tourne. Évidemment, vous n'entrez pas dans l'eau. Et en sortant, on a un ange. Ça saurait. On ferait des baptêmes toute la journée ici. C'est pas comme ça que ça se passe, nous le savons. C'est un engagement que nous prenons. Nous disons, Seigneur, je meurs aujourd'hui avec toi. Et je m'engage à lutter contre ma vieille nature qui s'élève contre toi pour vivre la vie de résurrection avec toi. Ressusciter avec lui. Oh frères et sœurs, regardez ce qu'il est dit. Colossiens 2, 12 à 13. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, il vous a rendu à la vie avec lui. Romains 6, c'est en sa mort que vous aviez été baptisés, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, frères et sœurs. Afin que comme Christ a ressuscité des morts, de même, nous marchions en nouveauté de vie. Je m'adresse à ceux qui sont baptisés. Est-ce que ça se voit, votre nouvelle vie? Il y en a un à gauche, oui. Est-ce que votre nouvelle vie, ça se voit? Je sais pas comment prendre votre réponse, hein. Ouais. La vie nouvelle, ça se voit. Un nouvel homme. L'autre jour, j'ai été bouleversé. Bouleversé. Je ne cite pas de nom, mais j'ai fait une visite et j'avais les larmes aux yeux en partant. J'avais les larmes aux yeux en partant parce que la première fois que j'ai visité ce frère, je l'ai visité en prison. En fait, sa fiancée d'alors commençait à venir à l'église, elle me dit, pasteur, je voudrais que vous alliez voir mon fiancé en prison. Je dis, ah bon, parce qu'il est là-bas? Elle me dit, oui. Mais je voudrais que vous y alliez. Je voudrais que vous lui parliez de Jésus. Alors, je suis allé. Et lui avait donc un rendez-vous. Et il pensait que c'est sa fiancée. Il ne le savait pas. Imaginez sa surprise. Vous attendez quelqu'un de féminin, puis vous avez un type que vous avez jamais vu, qui arrive, qui dit « Bonjour, assieds-toi, on va parler ensemble, je suis le pasteur. » Je dois dire qu'il n'était pas enchanté sur le moment. Et puis on a eu une demi-heure d'entretien comme ça. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait plus sortir. Et moi non plus. Donc autant se causer. J'espère qu'il est là ce matin. Et nous étions ensemble. Il m'a surtout écouté, il était très réservé. Puis je suis reparti. Et sa fiancée a continué à prier pour lui et à lui parler de Jésus. Puis il est venu et il s'est engagé dans les eaux du baptême et il a changé de vie. Et là je le revois l'autre jour, papa de plusieurs enfants, grand-père maintenant, aimant le Seigneur. Son passé, il ne l'a plus qu'à l'extérieur, sur la peau, où se trouvent encore certains dessins. Mais à l'intérieur, c'est un homme nouveau. Je suis parti, j'avais les larmes dans les yeux. J'ai dit, oh Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Frères et sœurs, regardez, il nous est parlé du déluge comme d'une image du baptême. L'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Le déluge a mis fin à ce qui se passait sur la planète à l'époque. Fin. La Bible nous dit que la terre était couverte de violence. Et le déluge vint, il les emporta tous, seuls 8 furent sauvés. Mais quels furent les 8? Ceux qui entrèrent dans l'arche? Seulement ceux-là? Ceux qui ne crurent pas, n'y entrèrent pas. Et pour ces 8-là, commença une nouvelle vie. Parce qu'après le déluge, je vous explique pas, c'était différent. Une nouvelle vie. Mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à entrer par les eaux du baptême dans cette vie nouvelle. Et Jésus nous en montre le chemin. Mourir avec lui pour ressusciter avec lui. Voyez-vous, quand on est mort, on est coupé de tout ce qui se passe sur la terre. C'est fini. Dominique, le jour où je suis mort, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus qu'un corps. C'est terminé. Vous croyez que les morts, ils s'embarrassent encore de savoir s'ils auront un héritage ou pas? Allez devant un cercueil, dites aux morts, tu es le plus beau, tu es le meilleur, il n'y en a pas eu un comme toi. Vous croyez qu'il s'enfle d'orgueil? Ça ne le touche plus. Vous pouvez lui dire l'inverse. Vous pouvez lui dire, mais avec ta tête, ça ne le touche pas non plus. Il est mort. Sommes-nous morts ce matin? Que le Seigneur t'entende, mon frère, tu seras éprouvé certainement dans les jours à venir. Quand on dit quelque chose sur nous, est-ce qu'on est mort? Allô? Quand on nous critique, comme parfois on écrit sur nous, est-ce qu'on est mort? Vous savez, j'ai une joie, c'est de vivre avec le papa Jean depuis des années. Mais il est mort. Enfin, il est vivant. Mais intérieurement, je peux dire, je peux lui rendre ce témoignage et j'aimerais le lui rendre publiquement. Je l'ai vu passer des situations terribles. J'ai vu des gens dire des trucs sur lui et chaque fois, il me disait, mais Samy. Parce que moi, c'est vrai que j'avais des relents d'Ancien Testament qui remontaient quand il y avait des gens de... Ouais. Si on avait été du temps de David, je pense que de temps en temps, une petite exécution sommaire. Et lui, il me disait, Samy, mais sois heureux quand on dit du mal sur toi. Jésus a dit, réjouissez-vous, rends-toi compte, maintenant on a un sujet de se réjouir. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, ça le. Moi, j'ai vu des gens qui ont écrit sur lui, mais des trucs moches. On a reçu des lettres anonymes pendant 2 ans. C'était. Dans les lettres anonymes, ils écrivaient que je touche mes propres filles, vous voyez, pour vous montrer le niveau. Eh bien, on a eu pendant 2 ans un grand sujet de joie. Mais moi, pour lui, c'était comme ça. Pour moi, ça m'a aidé à mourir un peu plus. Parce qu'au début, je peux pas dire je me réjouissais. Hein. Franchement, je peux pas me dire je me réjouissais. Je vais être sincère. Il y a le premier moment où, tac, vous prenez la chose. Enfin, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends, celui-là, je vais lui répondre, et puis là, vous affûtez la plume. Puis après, petit à petit, vous dites, Seigneur, finalement, on nous méprise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Pierre et Jean et tous les autres? Ils les ont méprisés. On nous méprise, mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous suivons Jésus. Alors nous voulons nous réjouir avec lui. Donc vous allez vous réjouir maintenant. Et quand on dira toutes sortes de mal sur vous, vous allez vous réjouir. Alléluia. Il y en a qui disent rien, il y en a qui disent on va voir. Bien. Mais c'est ainsi que nous sommes morts au péché. Ça veut dire en d'autres mots que quand quelqu'un viendra te flatter, tu t'enorgueilliras pas. Hello. Quand quelqu'un te dit, waouh, quand tu chantes, Dominique, quand tu chantes, j'ai des frissons. Eh ben toi, Dominique, tu diras, ben, gloire au Seigneur, j'ai aucun mérite, celui qui m'a donné cette voix-là, qu'est-ce que j'en peux? Rends-lui la gloire à lui, sois heureux qu'il ait donné une voix comme ça. Amen. Vous voyez? Que tu auras le meilleur des pianistes ici. Et que tout le monde viendra l'encenser en lui disant. Déjà, il est bon celui qu'on a. Hein, je voudrais que vous l'encouragiez ce matin. Il est excellent. Et là, il y en a un autre qui se dit, c'est pas juste, pourquoi ils l'applaudissent lui? Moi aussi, je sais jouer au piano, t'as qu'à venir, hein? On t'attend, je t'invite ce matin, j'en profite. Hop, une petite pause, j'ai besoin de musiciens. Nous sommes heureux si nous avons des pianistes qui se rajoutent, c'est vraiment un besoin. Et Bernard le fait avec beaucoup de joie, mais c'est vrai qu'il assume seul. S'il y a quelqu'un qui est vraiment reçu de la part du Seigneur, venez et ce sera une joie de travailler avec vous. Mais si ce matin vous dites à Bernard, Bernard, en dehors de toi, tous les autres sont... Nix, Bernard va pas s'enfler, ça le touche plus. Il va pas dire, il va pas grandir. Il va vous dire, sincèrement, c'est pas juste ce que vous dites. C'est pas juste ce que vous dites. Non, il y a d'autres à qui Dieu a donné des dons. Moi je voudrais, si le Seigneur me permet de jouer comme ça, c'est sa grâce. Sûrement qu'il y a du travail, mais c'est sa grâce. Vous comprenez? Quand vous prêcherez, on vous dira, pasteur, quand vous prêchez, mais quand vous prêchez. Ou bien frère, quand toi tu es là à la réunion, à la cellule, quand toi tu es là, rien que ta présence, déjà je sens l'onction. Bah, tu lui dis, bon, d'abord je vais prier pour toi, pour que tu aies le discernement. Et deuxièmement, si la présence de Dieu est là quand je suis là, ben rendons-lui gloire tous les deux à lui, parce qu'alors moi j'ai rien mérité. Amen. Dis maintenant à ton voisin, à bon entendeur, salut. Ainsi vous-même, Romains 6, regardez-vous comme mort au péché. Ce matin, il y a une parole prophétique qui disait, vous n'arrivez même pas à débrancher vos téléviseurs. Vous êtes coincé sur votre site internet. Regardez-vous comme mort au péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne vivez plus pour le péché, vous n'existez plus. Dans ces annales, votre adresse n'y est plus. Quand le diable parmi les pécheurs cherche l'adresse, Claude Gréder, Claude Gréder, Claude Gréder, Claude Gréder, Claude Gréder, donnez-moi un autre bottin de téléphone, Claude Gréder. Il le trouve plus. Il y est plus. Quand le diable cherche Cécile Saint-Cloud, il cherche Saint-Cloud, 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 Cloud, Cloud. Elle y est plus. Elle n'y est plus, nous ne sommes plus dans son bottin, parce que nous avons été graciés, nous avons été sauvés par Jésus, lavés par son sang, et nous nous sommes engagés avec lui dans les eaux du baptême, à mourir à cette vie-là, pour vivre une vie nouvelle. Et maintenant nous pouvons dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais de temps en temps, la vieille nature, elle revient. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Tu sais pourquoi? Parce que tous les jours, il faut le crucifier, le vieil homme. Tous les jours, il y a le risque qu'il s'enfle d'orgueil. Tous les jours, il y a le risque qu'il... Celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup, dit l'Écriture. Je termine et je suis à ma conclusion. Pour moi, le baptême, c'est pas seulement un acte symbolique. J'aimerais vous le dire, c'est encore moins un acte initiatique. Le baptême n'est pas un acte initiatique. Mais c'est pour moi, au-delà du symbole, une réelle identification à ce que Christ a fait. Et souvenez-vous qu'au moment où Christ était à la croix, non seulement il porte vos péchés et les miens, mais il triomphe de la puissance du diable. Tu t'identifies à une victoire. Tu t'identifies à une victoire. Et c'est pour ça que tu peux dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, en conclusion, les conséquences du baptême. Le baptême est un engagement, une alliance. Une alliance. En effet, et Paul l'a cité tout à l'heure, il ne savait pas que j'avais eu ça aussi sur mon cœur. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Une même plante, ça vous fait penser à quoi cela? À l'arbre de vie, oui, c'est une idée, puisqu'on parle de plantes, mais c'est plus que ça. Alors regardez le mariage, ils ne sont plus deux, mais ils forment une seule chair. Il y a une alliance qui est faite, il y a un engagement qui est pris. Quand vous vous êtes mariés, vous avez pris un engagement, j'ai pris un engagement à m'occuper d'elle, à l'entourer, à la rendre heureuse, à la... Mes frères, vous avez pris cet engagement, Georges. Et les sœurs, vous aussi, vous avez pris des engagements. Hein, je voudrais vous le rappeler comme ça. Non, on risque que vous l'oubliez en passant. Non. Un engagement mutuel dans lequel nous devenons une même plante. Nous deux, on est en train de devenir une même plante. Moi, je suis le tronc, elle a la feuille, elle est toute verte aujourd'hui, vous voyez ça? Mais écoutez bien, on devient... Écoutez ce qui... Je vais vous dire, l'autre jour, je fais la visite, je fais ma visite, et tout d'un coup, dans mon cœur, quelque chose me dit, ta femme a beaucoup travaillé ces temps derniers. Elle a beaucoup travaillé ces temps derniers. Elle travaille toujours, mais ces temps derniers, entre autres. Et intérieurement, c'est, je ne vais pas vous dire, le Seigneur m'a parlé, maintenant, ce ne serait pas juste, mais cette envie de lui faire plaisir. Allez, emmène-la ce soir manger une pizza. Ah, je dis, chez les gens chez lesquels j'étais, au moment où ça me vient, je dis, ah tiens, j'ai envie de lui faire du bien à ma femme ce soir. En allant manger une pizza, bien sûr. Non, j'en vois qui me regardent pas très bien. Hein. Et puis, une minute après, je reçois un SMS. Bonsoir mon chéri, qu'est-ce que tu penses d'aller manger une pizza avec les enfants ce soir? C'était elle. Je dis, mais alors on est câblé sur la même chose, hein. On est devenu une même plante. Quand t'es une seule plante, tu es uni avec lui. Et lui avec toi, tu es en communion. Mais vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est quelque chose qu'on alimente. Sinon, le risque, c'est la routine. Hier, j'entendais un jeune nous apporter cela. Vous avez sinon le risque d'être copain et copine dans une même maison. Combien n'ont le Seigneur plus que comme copain? Il n'est pas ton copain. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Il est ton roi. Il est ton maître. N'oublie pas de garder le premier amour. Le baptême est une adhésion à la famille de Dieu. C'est un témoignage public de ta foi en Jésus. Mais également un engagement. Regardez dans le livre des Actes. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quand tu t'engages dans les eaux du baptême, tu témoignes publiquement de ta foi en Jésus-Christ et de ton obéissance. Et puis tu te joins à l'assemblée des croyants, à l'église de Jésus-Christ et à l'église locale. Et je termine. Le baptême nous engage également pas être des paroissiens, pas être des chrétiens qui sont assis là le dimanche. Non, non, le baptême nous engage à devenir des disciples. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, après avoir vu tout ce que nous avons vu, conscient qu'il nous faut croire, que le fait de croire nous emmène à la repentance, mais que la repentance, c'est une prise de conscience qui engendre un changement, peut-on imaginer qu'un nourrisson peut être baptisé? Ce n'est pas possible. Avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui ont fait une démarche sincère, pour leurs enfants, l'enfant lui-même n'étant pas conscient. J'aimerais dire à tous les enfants qui ont peut-être passé par là, à tous les hommes et les femmes qui sont là aujourd'hui, si les Éphésiens se laissèrent baptiser au nom du Seigneur, alors qu'ils avaient eu le baptême de la repentance, ne sommes-nous pas nous aussi invités aujourd'hui, non pas à prolonger ce que nous avons fait il y a bien longtemps, mais peut-être à dire, eh bien Seigneur, aujourd'hui, alors que j'ai pris conscience, tout en respectant la démarche de mes parents qui étaient sincères, tout en respectant la démarche de mes parents qui croyaient à ce qu'ils faisaient parce que ça leur a été enseigné, eh bien Seigneur, je reconnais aujourd'hui que le baptême que tu me proposes, c'est celui par lequel tu es passé, et moi aussi, je veux passer par là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions vivre en ressuscité.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.